Bonjour Sylvain Patieu.
Bonjour.
Au cœur de votre livre, il y a un couple, Melvin et Jean McNear. Comment vous avez connu leur histoire ?
J'ai connu leur histoire par l'intermédiaire d'un ami historien américain, Tyler Stovall, qui était un historien afro-américain spécialiste de la France. Et c'est lui qui m'a parlé le premier des McNear. Et en fait, il m'a invité à la cérémonie d'hommage à Jean McNear dans l'année 2015. Et il m'a dit, ça va t'intéresser cette histoire, parce que tu travailles sur l'histoire des populations noires en France, et leur histoire, elle est fascinante, et donc il m'a invité, et c'est comme ça que j'ai entendu parler de cette histoire.
Et cette histoire, elle vous a effectivement fasciné. C'est déjà le deuxième livre que vous consacrez au couple McNear.
Oui, j'avais fait un premier livre qui s'appelait « Nous avoir panté un chemin caillouteux » aux éditions Plein Jour, qui était un récit littéraire. Et là, Panthère et Pirate, c'est un livre d'histoire, en fait. Et donc là, je suis allé vraiment beaucoup plus dans les archives. J'ai beaucoup plus creusé que pour le premier livre. J'ai fait pas mal d'entretiens aussi. Et j'ai défriché aussi toute une littérature sur les Black Panthers qui est sortie aux États-Unis en anglais, mais qui n'est pas parue en France.
Qui sont Melvin et Jean McNear ?
Ce sont des Noirs américains qui sont nés à la fin des années 40, en Caroline du Nord. Ils font partie, disons, d'une catégorie de la population qui a bénéficié des droits civiques, puisqu'ils ont pu aller à l'université, mais ils vivent quand même dans des quartiers qui sont entièrement ségrégés. Dans les années 60, donc, ils arrivent à l'université et ils constatent les limites des avancées pour les droits civiques. Et ils arrivent à une période où il y a eu des avancées, mais il y a des blocages, il y a une certaine violence de la population blanche, une partie de la population blanche américaine contre les avancées des droits civiques. Et il y a notamment l'assassinat de Martin Luther King, qui est un véritable traumatisme, parce que c'est quand même celui qui portait une voix pacifique. Et à partir de ce moment-là, il y a d'autres groupes qui sont inspirés plutôt de la pensée de Malcolm X, notamment le Black Panther Party, qui propose une voie plus radicale, une voie plus révolutionnaire pour essayer de changer les choses aux États-Unis. Et donc, ils vont être intéressés par ça. Et en fait, il y a plusieurs choses qui se mêlent en même temps. Il y a la guerre du Vietnam avec l'anti-impérialisme, le système éducatif qui est un peu comme on a eu avec mai 68 en France, qui est un peu inadapté à cette arrivée de nouvelles populations et qui est aussi contesté dans les méthodes de pédagogie. Et il y a la question noire qui est aussi très importante. Donc tout ça se mêle et fait qu'ils vont se retrouver en rupture, alors qu'au départ, c'est plutôt des Américains moyens qui ne sont pas du tout des personnes qui cherchent les problèmes, qui ne sont pas du tout des délinquants, mais ils vont se retrouver à accomplir un acte aussi extrême que de détourner un avion.
Ce ne sont pas des militants, ils ne sont pas soutenus par cette organisation, et pourtant, avec trois autres Afro-Américains, ils vont détourner cet avion le 31 juillet 1972. Je reprends les mots, je crois, de Melvin McNear. Les détournements à l'époque, c'est un peu la mode.
Oui, alors la mode, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de détournements dans les années 60 parce qu'il y a un développement de l'aviation civile, mais il n'y a pas encore toutes les règles de sécurité qu'il y a aujourd'hui.
C'est pas non plus assimilé encore au terrorisme, c'est considéré plutôt comme un acte militant comme un autre.
Alors ça commence quand même à être condamné, notamment au niveau international avec des accords d'extradition et tout ça, mais on n'est pas encore dans le 11 septembre, quoi. C'est pas encore considéré comme quelque chose où les passagers vont mourir, où l'avion va être détruit, tout ça. C'est encore considéré comme des actes qui peuvent être politiques. Pour les compagnies aériennes, ça coûte moins cher d'avoir un avion détourné de temps en temps que de mettre en place des mesures de sécurité drastiques. Et ils se disent que de toute façon, les passagers n'accepteront pas de faire la queue pendant des heures, de passer par des portiques de sécurité. Donc c'est vraiment une autre époque, hein. Il faut se mettre dans cette époque des années 70 qui est très différente d'aujourd'hui.
C'est plutôt un moyen de faire un acte militant, mais aussi c'est un moyen de se rendre quelque part. Alors Cuba, beaucoup à l'époque. Dans le cas des cinq pirates dont vous racontez l'histoire, la destination demandée, c'est Alger. Pourquoi Alger ?
Alors d'abord parce que Cuba commence à devenir difficile. Fidel Castro accepte de plus en plus mal de recevoir des pirates de l'air, il les met en prison. Et ensuite parce que Alger est vraiment auréolé à l'époque de la victoire contre l'impérialisme français, contre le colonialisme. Et elle apparaît comme la capitale en fait du tiers-monde révolutionnaire. Elle a une politique aussi de soutien actif à différents mouvements de libération nationale. Et donc, il y a une partie des dirigeants du Black Panther Party, notamment Eldridge Cleaver, qui se réfugient à Alger. Ils sont recherchés aux États-Unis, ils ont des problèmes avec la justice aux États-Unis, donc ils vont à Alger. Assez vite, quand même, les relations entre le Black Panther Party à Alger, donc la section internationale du Black Panther Party et le gouvernement algérien, se dégradent. Et donc, quand les pirates de l'air arrivent, eux, ils savent pas ça.
Ils s'attendent à être accueillis, à être protégés. Comment ça se passe à l'arrivée ?
Bah, ça se passe pas très bien pour eux à l'arrivée, puisque d'abord les Black Panthers qui sont à Alger, notamment Eldridge Cleaver, sont surtout intéressés par l'argent de la rançon.
Ils ont réussi à récolter, donc l'argent de cette rançon, c'est $1 million tout de même.
Voilà, donc c'est quand même une somme considérable qu'ils ont cachée Quand ils sortaient de l'avion, ils en ont même mis dans les couches des bébés pour en mettre de côté. Et puis en fait, le gouvernement algérien récupère tout l'argent, il le rend au gouvernement des États-Unis parce qu'il veut pas trop se fâcher avec les États-Unis. Donc ils intéressent plus tellement leurs camarades de la section internationale du Black Panther Party, qui à cette époque cherche surtout à partir d'Alger. Donc ils se retrouvent un peu seuls, et à ce moment-là intervient le réseau Curiel. Donc il y a un réseau de porteurs de valises pendant la guerre d'Algérie, et qui décide d'aider ces pirates de l'air.
Et c'est à ce moment-là que donc le destin de ces cinq pirates, et notamment du couple McNear, dont vous nous racontez l'histoire, se lie à la France. Ce détournement, il les coupe à jamais des États-Unis.
Voilà, ils ne pourront plus jamais retourner aux États-Unis. Et ils se retrouvent en France. Alors, ils n'avaient pas du tout ambitionné au départ d'aller en France. Ils ont quand même une image plutôt positive de la France, qui est l'image du pays des droits de l'homme, d'un pays qui est moins soumis au racisme que les États-Unis. Et donc, ils arrivent de façon clandestine. Ils vont vivre pendant presque 2 ans de façon clandestine. Et puis, ils sont arrêtés. Ils sont jugés avec un procès assez médiatisé, condamnés à des peines de prison qui sont pas complètement légères, mais qui sont pas très lourdes non plus. Ils sont condamnés à 5 ans de prison. Ils bénéficient d'un a priori favorable, parce que en gros, tout le procès, ça va être l'idée de dire c'est des Noirs américains, s'ils ont quitté les États-Unis, c'est parce qu'ils fuyaient le racisme aux États-Unis, et en France, c'est pas la même chose. Et il y a un mouvement aussi avec Simone Signoret, par exemple, puis aussi plein d'anonymes, qui les défend, un comité de soutien, qui fait que pour le gouvernement de l'époque, c'est difficile de les extrader, et ils décident de ne pas les extrader. Et donc, ils ont la possibilité de refaire leur vie en France.
Le couple McNear va s'installer dans un quartier populaire de Caen, dans le nord de la France. Ils vont devenir travailleurs sociaux, et finalement, leur engagement fait oublier, peu à peu, leur passé de pirates de l'air.
Oui, ils continuent leur combat pour la justice sociale, mais ils le font de manière beaucoup plus locale, avec beaucoup moins d'objectifs révolutionnaires. On change d'époque, on est dans les années 80. Et ce qui les sauve, c'est les dispositions qu'ils avaient avant. Melvin, les dispositions qu'il avait pour le sport, qui font qu'il va devenir un très bon éducateur sportif, qui va avoir de très bonnes relations avec les jeunes de son quartier. Et Jean, c'est ses aspirations scolaires, puisqu'elle va faire de l'aide aux devoirs. Et donc tous les deux, ils deviennent des intermédiaires dans leur quartier. Ils sont noirs, ils sont étrangers, ils sont dans un quartier où il y a beaucoup de populations immigrées, il y a beaucoup de jeunes, mais il y a aussi des populations plus âgées, et il pourrait y avoir des heurts entre les deux. Et eux, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont vraiment jouer un rôle de médiateur, d'intermédiaire entre ces populations. Et le fait qu'ils soient étrangers, qu'ils soient noirs, et aussi qu'ils soient très investis dans le travail social, va leur donner une importance, va leur donner la possibilité de créer du lien dans ce quartier. Et de lutter contre la stigmatisation, de lutter aussi contre un racisme qui prend des formes différentes en France de celles des États-Unis. Ils deviennent en fait des personnalités vraiment repères dans leur quartier, à tel point qu'aujourd'hui, il y a un stade qui porte leur nom.
Finalement, cet ouvrage, c'est pas simplement l'histoire d'un détournement d'avion.
Oui, c'est un livre qui passe à travers plusieurs continents et à travers plusieurs époques, et qui permet de comprendre ces évolutions, qui permet aussi de voir les évolutions du militantisme, puisqu'on passe des espoirs révolutionnaires des années 70 à un militantisme plus local à partir des années 80. Mais c'est aussi un livre qui montre comment les questions de classe et de race sont intimement mêlées. Parce que le parcours de Jean et Melvin McNear, c'est un parcours à la fois au sein du monde populaire, hein, ils vont être vraiment immergés dans les milieux populaires, et aussi un rapport à la race qui va rester tout au long de leur vie. Et bien sûr, la race, on l'envisage comme une construction sociale et pas comme une donnée biologique immuable. C'est la manière dont ils sont considérés en tant que noirs, en tant que noirs américains, et ça permet de comprendre la place que ça a dans la vie des milieux populaires. Et finalement, c'est une histoire qui est beaucoup plus française qu'américaine. Tous les deux, Jean et Melvin, ils auront vécu plus de temps en France qu'aux États-Unis. Donc ce sont des Américains, mais des Américains de France, en fait. Ce qui est un peu triste quand on étudie leur histoire, c'est de voir à quel point beaucoup de choses se sont déditées. Ont disparu par rapport aux années 70. Toute la solidarité qu'il y avait autour d'eux et le fait qu'ils n'ont pas été expulsés, qu'ils n'ont pas été extradés, je ne suis pas sûr que ça se passerait comme ça aujourd'hui. Tout le discours qu'ils ont pu porter auprès des jeunes dans les quartiers, toute la solidarité qu'ils ont réussi à mettre en œuvre, mais c'est aussi parce qu'il y avait des politiques urbaines qui le permettaient. On a un peu l'impression que tout ça n'a pas disparu, mais que c'est fortement attaqué. Donc ça, c'est un peu triste.
Merci Sylvain Patieu. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Panthères et pirates, des Afro-Américains entre lutte des classes et Black Power, aux éditions La Découverte.